Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h35, à l'occasion de la visite en France du président chinois Xi Jinping, nous débattons sur notre relation avec la Chine, sur la géopolitique, parce que la géopolitique change et bouge en permanence, le régime chinois a changé, nos relations ont changé, l'Europe est partagée entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Quelle Europe, quelle indépendance européenne doit-elle être construite? Alors, pour débattre de tout cela, de ces relations avec la Chine, nous avons deux invités. Je suis heureux de les recevoir. Jean-Baptiste Noé, par ordre alphabétique, qui est rédacteur en chef de la revue Conflit, éditorialiste sur Sud Radio.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Et le sinologue Alain Wang, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors, Xi Jinping, regardons les choses clairement. La Chine a changé, hein, parce que on a depuis longtemps, la Chine à la fois fascine, c'est un peu comme la Russie, à la fois fascine et en même temps effraie. Ça a toujours été un peu comme ça. Mais la Chine aujourd'hui, le pouvoir chinois n'est plus le même que celui qu'il était il y a encore 15 ans ou 20 ans. Ça a beaucoup changé. Qui veut commencer?
Si on revient en arrière, oui. On avait quitté dans les années 80 véritablement, oui, la Chine maoïste avec, oui, l'arrivée de Deng Xiaoping, qui c'était quatre modernisations,
qui avait ouvert la Chine,
ben,
qui
la
avait...
Chine, une grande réussite économique, on peut dire, oui, hein, faut toujours le reconnaître quand même. Mais de l'autre côté, depuis 2012, l'arrivée du président Xi Jinping, celui dont on parle, oui, évidemment,
président à vie,
président à vie maintenant, donc il a changé la constitution, il a mis sa pensée au sein du parti communiste chinois, mais aussi, oui, au sein de la constitution. Les enfants apprennent sa pensée dès l'école primaire, donc on est véritablement face à quelqu'un qui est en train de façonner une nouvelle Chine à sa façon, et on va dire d'une manière assez dictatoriale. Quand même.
Oui, on est presque en dictature, c'est une autocratie dans tous les cas. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste? Oui, cette évolution de la Chine, est-ce que d'abord nous l'avons prise en compte, et est-ce que nous l'avons vue vraiment?
Je pense ni l'un ni l'autre, mais c'est vrai que Xi Jinping a dit, par exemple, que ces deux références étaient Mao et Joseph Staline, donc ça, oui, ça pose un peu le débat. Mais il faut aussi noter l'extraordinaire progrès de la Chine. Je pense pas qu'on pouvait pas imaginer, il y a encore 40 ans, où serait la Chine aujourd'hui. C'est quand même la deuxième puissance économique mondiale. Elle pèse sur de nombreux points, dans l'automobile, dans la monnaie. Sa monnaie, aujourd'hui, est en mesure de concurrencer le dollar. Et c'est ça aussi qui nous fascine. C'est comment ce pays, qui n'était pas grand-chose il y a 50 ans, avec eu des famines, avec une très grande pauvreté, aujourd'hui est en mesure de faire jouer égal avec les États-Unis.
Oui.
Alors oui, là, il faut bien se rendre compte que c'est grâce aux Chinois, parce que là on parle du gouvernement, il faut parler aussi du peuple chinois. C'est grâce à l'investissement qu'ont eu tous les Chinois depuis les années 80 dans la construction d'une économie privée, hein, qui était extrêmement dynamique, hein, ça représente 70% de l'économie, oui, chinoise. C'est eux qui ont construit la Chine.
Alors parlons de cet impérialisme. On peut évoquer, je peux employer le mot, impérialisme chinois, on est d'accord.
Alors oui, ou ce n'est que la Chine, oui, ne contrôle pas de pays extérieurs, ou n'a pas la volonté de contrôler des pays extérieurs. Il y a le cas de Taïwan, évidemment, que nous, oui, on considère comme un pays indépendant, que la Chine considère comme étant une région qui lui appartient. Mais il n'y a pas encore, hein, mais l'idée, oui, de s'étendre, l'idée d'une domination économique, éventuellement d'une domination culturelle, mais pas encore d'une domination militaire.
D'ailleurs, je suis étonné, alors vous allez répondre, mais je suis étonné que dans le cadre de ce voyage, personne n'évoque Taïwan.
Parce que c'est un sujet extrêmement sensible et qu'on ne, oui, sait pas comment faire.
Oui, on ne sait pas comment, voilà, faire. Et les Français ne savent pas comment faire. Oui,
ceci dit, on aurait pu l'évoquer puisque le représentant de Taïwan, de M. François Wu, a été présenté au cours de la remise de décoration de la Légion d'honneur de M. Gatolin, qui est un sénateur, au président de la République il y a quelques jours, en même, oui, temps que le Premier ministre en exil tibétain. Donc il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le débat public aujourd'hui, on parle très peu de oui. Personne, surtout Taïwan, on n'en parle pas parce que c'est un sujet qui fâche.
Oui, puis parce que les relations internationales sont fondées sur la puissance, oui. Et que même si on est favorable à l'indépendance et l'autonomie de Taïwan, la puissance chinoise fait que les pays européens sont très limités.
Alors moi je voulais revenir sur la partie de la Chine. Parce qu'on a toujours l'impression que cette Chine est pacifique. Faut toujours se souvenir quand même que dans les années 50, ils ont envahi le Xinjiang, qu'ils ont assimilé aujourd'hui, qu'ils essaient d'assimiler aujourd'hui. Ils ont envahi le Tibet, ils ont envahi un tiers de la Mongolie, et que depuis une dizaine d'années, ils sont en train de reprendre en main toute la mer de Chine méridionale. Et si on prend les traités internationaux, normalement, ils n'ont pas le droit de prendre l'ensemble de la mer méridionale.
Mais la Chine ressemble à la Russie, quoi. Ou la Russie ressemble à la Chine.
Ils se ressemblent tous les deux.
C'est le même. Ce sont des impérialismes voisins.
Ces deux autocrates dictateurs sont en train d'essayer de rêver ce qu'ils étaient autrefois. Ce que veut Xi Jinping, finalement, c'est retrouver une Chine qui date de la dynastie des Qing, qui était gigantesque sur le plan territorial, c'est un peu sa vision, et évidemment la dynastie des Qing, en plus, qui n'est pas chinoise, qui est manchou. Donc, mais enfin, en dehors de ça, son idée, c'est ça. Et donc, de revoir une Chine en tant que, on va dire, superpuissance mondiale et en compétition avec les États-Unis, évidemment, directement.
Sur le plan économique, la Chine a mieux réussi que la Russie. C'est évidemment qu'aujourd'hui, c'est un acteur qui pèse. Et la guerre en Ukraine lui a aussi été profitable, ou elle a réussi à en tirer profit, notamment en imposant sa monnaie comme étant une monnaie concurrente du dollar. Dans la guerre des monnaies, c'est quelque chose de fondamental. On voit la Chine mener aussi une guerre du droit, en copiant d'ailleurs le modèle de guerre du droit américain. Et puis, en imposant sa raison d'être, une sorte de domination économique sur toute la partie Asie du Sud, l'Indonésie, les Philippines, qui est aujourd'hui un vaste espace chinois, au niveau économique, au niveau bancaire aussi.
Bien, alors on va parler du rôle de l'Europe. Quelle doit être la position de l'Europe? Parce que les Chinois ne veulent pas se mettre l'Europe à dos.
L'Europe est un grand marché. Il faut se souvenir qu'en 2022, le déficit européen vis-à-vis de la Chine, c'est 400 milliards d'euros.
Oui.
Donc nous finançons la Chine.
Qui possède une part de la dette française aussi.
Ça
compte. La dette, c'est un vrai sujet, parce que quand on parle de Taïwan, quand vous parlez de Taïwan avec Xi Jinping qui possède une partie de votre dette, vous êtes forcément pieds et poings liés. Votre marge de manœuvre est réduite.
Ben, évidemment.
Une partie de la dette grecque aussi. Il faut voir que en 2010, pendant la crise des dettes souveraines, c'est la Chine qui vient au secours de certains pays. La Grèce, le Portugal, l'Italie, alors qui engage ces pays à suivre la Chine.
C'est une façon de conquérir, c'est une conquête cachée, une manière de conquérir. Alors Diane va intervenir dans un instant, parce qu'on va parler de la réponse, quelle doit être la réponse européenne, et comment faire pour résister, pour être à équidistance en quelque sorte entre les États-Unis et la Chine. Comment l'Europe peut-elle résister à ces deux grandes puissances? C'est un des grands sujets de la géopolitique et de l'économie mondiale en ce moment. Je vais prendre Diane tout de suite, qui est à Perpignan. Bonjour Diane. Allô?
Oui, allô?
Oui, Diane. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, que vouliez-vous dire?
Eh bien, vous parliez sur Xi Jinping, là, qui était arrivé en France, et j'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'il fallait le punir, il fallait être compétitif avec la Chine. Ça me fait rigoler quand même.
Punir. Il s'agissait de mettre des barrières douanières un peu plus solides à l'importation des produits chinois.
Oui, mais alors laissez-moi rigoler quand même. Parce que regardez, rien qu'un exemple, les panneaux solaires. On a des usines françaises. Pourquoi on n'en a plus? Tout simplement parce que nous, on les taxe, tout ce que eux, les Chinois, ils aident, ils les subventionnent.
Oui.
Donc quand ils arrivent, ils
sont
moins chers, on ne peut pas être compétitif. Qu'est-ce qui se passe avec les Chinois ont bien dit que si on les embêtait, il y a le vin de France qui est vendu en Chine, il va être pénalisé. Comme les Américains ont dit quand il y avait Trump. C'est-à-dire que le vin français, si on pénalise...
Le cognac, surtout.
Voilà, va être... en grande difficulté. Et c'est-à-dire que toutes nos entreprises françaises, c'est les plus perdants. Je parle pas de l'Europe, parce que l'Europe n'aide pas. Parce que s'ils se mettaient tous ensemble d'accord, les 27, on pourrait lutter contre la Chine. Mais on se tourne tellement le dos les uns des autres qu'on ne pourra pas être compétitifs.
Donc il faut plus d'Europe.
Et non, il faut plus l'Europe. Je vous dis pas plus d'Europe. Comment? Il faut plus d'aide et que l'Europe se tienne les coudes.
Plus ben oui, que
les coudes. Ils ne se tiennent pas les coudes. Et tant qu'ils ne se tiendront pas les coudes, ils n'ont pas l'intention.
Diane.
Et ils n'ont pas l'intention.
Diane.
Donc on s'est parlé pour rien dire sur la Chine, parce que la Chine,
non,
eux,
ce n'est jamais parlé pour rien dire, Diane. De réfléchir, ce n'est jamais parlé pour rien dire. Pardon de vous le dire, Diane, mais jamais. Et de réfléchir à la situation géopolitique, c'est tellement important. La géopolitique a pris tellement d'importance aujourd'hui dans notre monde. Je ne sais pas si les Français se rendent compte suffisamment de cela. Les rapports internationaux sont tels aujourd'hui. Le monde a tellement évolué, il y a un tel désordre mondial qu'on ne peut plus ignorer ces problèmes géopolitiques. On ne peut plus les ignorer.
Oui, je voulais revenir sur les panneaux solaires ou les voitures électriques. C'est vrai que les Chinois les fabriquent avec des subventions très importantes de leur gouvernement, ce qui leur permet évidemment d'exporter pas cher. Mais on ne tient pas compte non plus, parce qu'on parle souvent que ça aide à la transition énergétique, etc.
Écologique,
maintenant, il faut se rendre compte que les Chinois, pour fabriquer ce qu'ils font, sont en train de détruire des zones entières en Mongolie, en Chine, en Afrique, et qu'ils ouvrent 2 centrales thermiques au charbon par mois.
Mais oui, c'est un argument, sous l'argument écologique, parce que les Chinois avancent cet argument écologique, mais derrière, détruisent la planète.
Oui.
Et c'est vrai.
Oui, à ce sujet, c'est les Européens qui ont voulu remplacer les moteurs thermiques par les moteurs électriques. Donc, c'est aussi un très beau cadeau à la Chine.
Oui, c'est vrai. Il fallait, parallèlement à cela, subventionner l'industrie automobile européenne.
Oui, sauf que les batteries des constructeurs français, elles ne sont pas fabriquées en France, elles sont construites...
Elles le seront, mais elles ne le sont pas aujourd'hui, vous avez raison.
Sauf qu'il faut faire très attention, parce que quand on écoute les économistes, la chanson c'est que la Chine nous aide à faire la transition, mais maintenant c'est un peu le nuage de Tchernobyl, c'est-à-dire l'impression que ça va s'arrêter sur nos frontières, mais la destruction de la planète, on en a des conséquences tous les jours et partout.
Bien, il est 9h46, à tout de suite.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
On le sait, l'économie et la géopolitique sont étroitement liées. La Chine, aujourd'hui, souffre sur son marché intérieur. Je veux dire par là que la Chine produit beaucoup de biens d'équipement, énormément, mais ne les vend pas aux Chinois, parce que les Chinois ne les achètent pas. Donc que fait la Chine? Elle accumule ses biens de consommation qu'elle essaie de répandre partout dans le monde, et notamment en Europe. C'est ce qui est venu chercher aujourd'hui Xi Jinping, Alain Wang.
Alors, c'est vrai qu'il y a un axe vers l'Europe, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un troisième axe qui s'est beaucoup ouvert cet an dernier, c'est l'Asie.
C'est l'Asie.
Et l'ASEAN en particulier. Aujourd'hui, on a des exportations, enfin des relations commerciales qui sont à peu près équilibrées, un tiers vers les États-Unis, un tiers vers l'Europe, un tiers vers l'ASEAN. Et ça, c'est assez nouveau. Je dirais que c'est la politique de dérisking, quelque part, du gouvernement chinois, pour éviter d'être trop dépendant à l'avenir, peut-être justement de l'Europe et peut-être des États-Unis.
Parce que les Américains ont mis des freins.
Évidemment.
Des freins à l'importation de produits chinois. Ce que l'Europe devrait faire, est-ce que l'Europe devrait le faire, Jean-Baptiste?
L'Europe peut le faire. Le problème, c'est que quand vous montez les droits de douane, vous touchez aussi, c'est-à-dire que les prix des produits vont augmenter. Donc ça va entrer en contradiction avec la question du pouvoir d'achat.
Oui.
Il faut bien voir qu'on va acheter des choses plus chères. Et puis, la Chine est un concurrent, mais il y a aussi un retard dans l'industrie française. Les normes, la fiscalité, les charges. On est dans un monde qui fait qu'on doit avoir une concurrence mondiale, qu'on le veuille ou non, il y a une concurrence mondiale. Si l'industrie française a des boulets qui est mis par une suradministration, elle ne peut plus lutter.
Oui, mais la concurrence mondiale est inégale, puisque nous mettons des règles, et notamment nos respectons les règles du commerce international, ce que font ni les Chinois ni les Américains.
Alors, c'est vrai, mais il y a aussi des règles qu'on s'est mis aux pattes, que l'action des centrales nucléaires, par exemple. Ce n'est pas les Chinois qui ont fait fermer les centrales nucléaires françaises.
Non, ça, on est d'accord.
Donc, il y a aussi une inégalité par ce biais-là, où non seulement on a une naïveté par rapport à l'extérieur, et en plus, on se rajoute des normes qui ne devraient pas y être.
Alors, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait été assez intelligent il y a très très longtemps, qui s'appelait Michel Barnier, qui avait émis l'hypothèse que vis-à-vis de la Chine, la seule solution qu'on avait, c'était la réciprocité. C'est-à-dire de se dire aux Chinois, vous avez accès au marché européen, mais en échange, il faut que nous ayons aussi, nous, le même accès sur le marché chinois. Et je pense que la bataille, elle est là, parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas accès au marché chinois.
Mais parce que notre commerce extérieur est considérablement déficitaire avec la Chine. Oui, ah, si, je regardais les chiffres.
Ah oui, oui, c'est sûr. Mais on a quand même pas mal d'entreprises qui sont en Chine actuellement, oui. Qui pourraient éventuellement travailler autrement, pouvoir vendre leurs produits, etc. C'est plutôt des produits qui sont fabriqués pour aller sur l'exportation et pas pour rester en Chine et vendre sur le marché chinois.
C'est-à-dire qu'il y a des barrages. Nous, Français, nos entreprises vont installer des usines en Chine pour venir nous envahir de produits.
Oui.
Chinois fabriqués par des entreprises françaises.
Bien sûr, oui.
Il y a eu des cas. Danone, par exemple, a eu un problème il y a quelques années avec des vols de brevets dus à une association faite avec une entreprise chinoise. Évidemment, Danone avait porté plainte en Chine, mais enfin, dans ces cas-là, il était sûr de perdre. Donc, il y a eu plusieurs gros industriels français qui se sont un peu brûlés les ailes en se rendant compte qu'effectivement, les règles étaient inégales et qu'elles étaient forcément toujours contre eux.
Mmh. Oui. Et elles sont d'autant plus inégales que depuis l'arrivée de M. Xi Jinping, il y a une reprise en main quand même qui est assez dur. La dernière loi, c'est la loi sur l'espionnage qui a été mise en place, enfin renforcée depuis le 1er juillet dernier, qui aujourd'hui met en péril pratiquement tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes en Chine, vous êtes homme d'affaires, vous discutez de quelque chose, vous essayez de savoir quelque chose sur votre concurrent qui est un concurrent d'État, vous pouvez être taxé immédiatement d'espionnage et être arrêté. Ça pose quand même de sérieux problèmes.
Oui, oui. Le régime s'est durci. Il ne s'est peut-être pas refermé, mais il s'est durci dans tous les cas.
On le voit d'ailleurs avec Hong Kong, on parlait de Taïwan tout à l'heure, Hong Kong c'est aussi un vrai sujet où là aussi les Européens n'ont rien fait, alors que la Chine a violé un certain nombre d'accords lorsqu'il y a eu la rétrocession de Hong Kong à la Chine, qui fait que cette cité-État qui était un lieu de liberté économique ou intellectuelle, aujourd'hui voit ses libertés se restreindre.
Oui, évidemment.
Avec des symboles sur la liberté de la presse, liberté des ONG, liberté aussi. Les grands cabinets de conseil américains ont tous quitté, je dirais, la Chine, sont en train de quitter Hong Kong parce qu'ils ne peuvent plus travailler.
Oui. Alors, il y a les problèmes économiques et puis les problèmes des droits humains.
Évidemment.
Hein, la Chine ne respecte absolument rien en matière de droits humains dans le monde et finalement, personne ne le lui dit. On parle beaucoup de génocide à Gaza ou de possibilité de génocide à Gaza. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, hein, mais vraiment, on ignore totalement, on se moque totalement de ce qui se passe avec les Tibétains, avec les Ouïghours.
Alors, simplement, c'est qu'aujourd'hui, on dira au niveau des Nations Unies, je dirais la grande structure est un peu brinque-ballante dans le sens où souvent la Chine a grosso modo, on va dire, entre 120 et 133 pays qui lui sont acquis. Et à chaque fois que la Chine est mise en cause sur le plan, on va dire, des droits de l'homme, évidemment, elle actionne le levier de la majorité et on arrête toutes les procédures contre la Chine. Il y avait eu un rapport qui avait été émis sur le Xinjiang, il a été bloqué parce que les Chinois l'ont bloqué avec leurs amis.
Est-ce que la Chine, la Chine s'inquiète quand même sur le terrain géopolitique, est-ce que la Chine a progressé ces dernières années ou pas sur ce terrain-là? Est-ce que la Chine est plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ou 20 ans ?
À mon avis, oui. Quand on regarde l'Afrique, que sur le plan commercial...
La concurrence russe, quand même, en Afrique, un peu, non ?
Oui, l'Afrique, c'est rien. C'est à peine 2% du commerce international pour la Chine. Donc, c'est important pour les Africains, la présence chinoise. Mais pour la Chine, la question africaine n'est pas importante. Je pense que
c'est des matières premières, quand même.
Oui, mais c'est assez faible. Le vrai concurrent, c'est l'Inde. Là, il y a une vraie concurrence. D'ailleurs, même d'un point de vue démographique, puisque l'Inde aura probablement plus d'habitants que la Chine dans les 10-15 ans qui viennent. Et l'Inde est aussi une très grande puissance pharmaceutique. Et d'ailleurs, je trouve que c'était intéressant, du point de vue de la diplomatie française, d'avoir à la fois accueilli le Premier ministre indien l'année dernière, le 14 juillet, grande fête, grande réception, et aujourd'hui, Xi Jinping. On voit bien que la France, dans sa diplomatie, essaye de jouer un peu sur les deux tableaux.
Oui.
On est dans le même temps. Hein.
Oui, on est dans le même temps. Justement, à propos de l'Inde, est-ce qu'aujourd'hui, l'Inde est en train de rattraper la Chine?
Oh, ça mettra du temps.
Ça mettra du temps.
Oui, beaucoup de temps, parce que je dirais l'Inde est en train de commencer véritablement son décollage industriel. Oui. Et puis sur le plan technologique, la Chine est largement en avance sur l'Inde. Je pense qu'il faudra attendre quand même 15-20 ans avant.
Donc l'Inde n'est pour l'instant pas un rival de la Chine.
Non, elle espère l'être. Elle l'est sur les sujets pharmaceutiques et agricoles. Mais effectivement, pour tout ce qui est industrie fine ou lourde, là, non. Et le gros avantage de la Chine aujourd'hui, c'est la robotisation. Enfin, en termes d'avantages économiques, la Chine a robotisé ses ports de manière très importante. Les ports chinois sont parmi les premiers ports au monde. Et là, sur la robotisation, elle a un avantage qui... pourra peut-être lui permettre aussi d'affronter la question du vieillissement de la population, parce que la démographie, c'est un vrai sujet. La pyramide chinoise connaît une explosion de population âgée, une réduction de la population jeune. Et donc, la robotisation peut être une solution à cette contrebalancement
démographique. Mais est-ce qu'on voit déjà la rivalité entre la Chine et l'Inde émerger en Asie?
Ah oui, puisqu'il y a, il y a des confrontations sur les frontières sino-indiennes, enfin, qui sont contestées de chaque côté, avec des dehors qui sont très violents. Alors, pour l'instant, ils ont passé un accord comme quoi ils n'utilisaient pas les armes létales, mais ils se tapent à coups de bâton, etc. Et ça fait quelques morts quand même. Donc, il y a des jeux quand même sur cette frontière himalayenne qui sont très très importants.
Oui, et il y a l'océan Indien aussi, que l'Inde considère évidemment comme son océan, mais où la marine chinoise est en train de s'installer. La Chine a énormément investi dans la marine, elle veut dépasser la marine américaine, et la Chine est de plus en plus présente dans l'océan Indien, également d'ailleurs à La Réunion, au Kenya, en Tanzanie. Et là aussi, il y a concurrence chinoise contre la présence française.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour parler de la Chine. Merci. Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Alexandra Redamiel, qui est directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions, chef de la délégation française à l'Eurovision. Il est 9h57. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.